écoutez RFI, il est 22h ici à Paris, 20h en temps universel.
Loïc Bussière.
Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez pour votre journal en français facile. Journal que je vous présente ce soir avec Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin.
Bonsoir Loïc, bonsoir à toutes et à tous.
À la une nouvelle polémique pour Donald Trump à un mois de la présidentielle. Le locataire de la Maison Blanche ne garantit pas de quitter son poste même s'il perd en novembre. Une déclaration qui fait des remous jusque dans son camp.
Et puis la création d'un parti d'opposition en Arabie Saoudite, à l'origine des dissidents en exil. Une première dans ce royaume qui ne tolère aucun mouvement de contestation.
Enfin en France, les nouvelles mesures anti-Covid qui provoque la colère des maires. À Marseille et à Paris, on critique la méthode du gouvernement.
Le journal en français facile.
Et on se rend aux États-Unis pour débuter cette édition à un peu plus d'un mois de l'élection présidentielle avec une campagne rythmée par les déclarations de Donald Trump.
La déclaration souvent polémique, c'est-à-dire qui déclenche une controverse qui font débat à l'image de cette dernière sortie du toujours locataire de la Maison Blanche qui refuse de garantir une transition pacifique en cas de défaite à la présidentielle. Interrogé hier sur cette question, il s'est contenté de dénoncer les possibles fraudes électorales sans s'engager à quitter le bureau ovale en cas de défaite. Donc une remarque qui fait réagir même au sein de son camp. Correspondance à Washington, Anne Corpet.
Vous engagez-vous à une transition pacifique en cas de défaite? La question paraît surréaliste en démocratie, mais elle valait le coup d'être posée car Donald Trump, plutôt que de s'engager à respecter le résultat du scrutin, a éludé et a une fois de plus déclaré qu'il s'attendait à des fraudes. Un dégagement en touche qui a contraint plusieurs républicains à réagir. Le vainqueur des élections sera investi le 20 janvier. Il y aura une transition en ordre, comme c'est le cas tous les 4 ans, a tweeté ce jeudi Mitch McConnell, le puissant chef de la majorité républicaine au Sénat. D'autres élus du camp républicain, comme Liz Cheney, Marco Rubio ou encore Mitt Romney, ont aussi tenté de rassurer les électeurs. Mais dans le camp démocrate, la remarque de Donald Trump a suscité une levée de boucliers. Cory Booker, sénateur de New York, était ce jeudi sur MSNBC.
Ce président menace notre démocratie. Si vous ne pouvez pas respecter la norme constitutionnelle et l'idée d'un transfert pacifique des pouvoirs, vous devez démissionner. Nous ne sommes pas le Zimbabwe, nous ne sommes pas la Biélorussie, nous sommes les États-Unis d'Amérique.
We are the United States of America.
Déjà en 2016, avant les élections, Donald Trump avait refusé de s'engager sur le respect du verdict des urnes. Il n'a d'ailleurs jamais reconnu avoir récolté moins de bulletins de vote qu'Hillary Clinton. Anne Corpet, Washington, RFI.
Et Donald Trump qui décidément divise, comme il a pu le constater aujourd'hui en allant se recueillir devant le cercueil de Ruth Bader Ginsburg, ancienne juge de la Cour suprême, morte vendredi dernier. Un déplacement présidentiel qui s'est accompagné de huées et de cris de protestation. Ruth Bader Ginsburg, qui avait 87 ans, était une icône de la gauche américaine et donc opposée à Donald Trump.
Eux lancent un parti d'opposition. Eux, ce sont des dissidents saoudiens en exil qui font entendre leur voix.
Et des dissidents comprendre qu'ils refusent de se soumettre à l'autorité saoudienne. Ils deviennent la première formation politique du genre à voir le jour sous le règne du roi Salman. Le royaume est une monarchie absolue qui ne tolère aucune contestation. Sami Bouklifa a pu joindre l'un des membres fondateurs de ce nouveau parti baptisé l'Assemblée nationale. Écoutez.
Réfugié à Londres, l'universitaire Madawi al-Rachid le précise d'emblée. Opposition est un mot tabou dans son pays d'origine.
Les espaces de liberté se sont considérablement réduits en Arabie Saoudite. Les militants, les intellectuels peuvent être emprisonnés à cause d'un simple tweet. L'horizon politique est bouché dans le royaume. Durant les 5 dernières années, le nombre de personnes qui ont dû fuir et se réfugier à l'étranger n'a fait qu'augmenter.
Ce sont ces dissidents éparpillés en Europe, en Amérique du Nord ou encore en Australie qui lancent désormais ce parti d'opposition, Madawi al-Rachid.
Nous avons ressenti le besoin de créer un parti politique au moment où le pays traverse une période critique avec des arrestations arbitraires. Bientôt, nous vivrons une passation de pouvoir. Le roi Salman sera remplacé par son fils, Mohamed Ben Salman, qui en fait règne déjà d'une main de fer. Il pourchasse les opposants même à l'étranger. Et avec notre parti politique, nous espérons faire obstacle à cette violence.
Madawi al-Rachid se dit consciente des risques encourus. Elle cite notamment le cas du tristement célèbre Jamal Khashoggi, ce journaliste opposant assassiné par les services secrets saoudiens en octobre 2018.
À présent, il est 17h05 à Rio. Venons-en à ce pas en avant au Brésil, un pas en avant pour rendre justice aux victimes de la dictature.
Mais le constructeur automobile allemand Volkswagen va en effet indemniser les anciens salariés de sa filiale au Brésil pour des violations des droits de l'homme commises durant le régime militaire. Explication à Rim Lipold.
L'accord passé avec la justice brésilienne prévoit le paiement de 36 millions de reais, soit 6,5 millions de dollars de compensation. Environ la moitié de cette somme est destinée aux anciens salariés de Volkswagen et à leurs familles. L'autre moitié sert à financer un mémorial en hommage aux victimes de la dictature, ainsi que des recherches universitaires. Les ex-salariés de Volkswagen avaient demandé des réparations, faisant valoir que la filiale brésilienne du constructeur allemand a aidé la dictature à identifier d'éventuels suspects qui par la suite ont été arrêtés et torturés. Une enquête indépendante lancée en 2015 par l'entreprise elle-même l'a confirmé, Volkswagen a bel et bien coopéré avec l'appareil répressif du régime militaire. Un dirigeant du constructeur a regretté ces violations des droits de l'homme et a souligné l'importance d'en assumer la responsabilité. C'est la première fois depuis les réparations de la Seconde Guerre mondiale qu'une entreprise allemande reconnaît la responsabilité de ses employés dans ce genre de cas. Pour l'instant, le président brésilien n'a pas encore réagi, mais il y a peu de chances qu'il le fasse, car Jair Bolsonaro ne cesse de glorifier cette période sombre de l'histoire du Brésil.
Rim Lipold.
Le journal en français facile.
Il faut que l'opinion soit très attentive et prudente. Si nous n'agissons pas, on pourrait se retrouver dans une situation proche de celle qu'on a connue au printemps. Les mots sont ceux de Jean Castex, invité ce soir de nos confrères de France 2.
Des mots du Premier ministre français qui décrit la situation du Covid-19 dans le pays au lendemain des annonces de son ministre de la Santé.
Fermeture totale des restaurants et des bars à Marseille, limitation de leur ouverture dans d'autres grandes villes où le virus circule activement, mesures trop strictes au goût de nombreux élus.
Et elles sont difficiles à comprendre, ces mesures, pour la maire de Paris, Anne Hidalgo, tandis qu'à Marseille, la nouvelle équipe municipale va encore plus loin en demandant à l'État de revenir sur sa décision de fermer totalement bars et restaurants. Au cœur du problème, il y a la méthode du gouvernement, Anne Souhaitement.
Fermer bars et restaurants alors que certains indicateurs s'améliorent depuis quelques jours à Marseille, pour le premier adjoint au maire Benoît Paillon, c'est un affront.
Notre ville vient d'être mise en quasi-confinement sans que personne n'ait été concerté. Se voir imposer de nouvelles mesures sans aucune concertation est vécue par Marseille comme un affront.
Manque de concertation, mesures imposées venues d'en haut. Comme à Paris, la mairie de Marseille dénonce le manque de concertation du gouvernement, mais elle va plus loin et lui réclame un délai avant la mise en œuvre des mesures.
Je demande au gouvernement 10 jours avant la mise en place de nouvelles mesures. Si à la fin de la semaine prochaine, les indicateurs repartent à la hausse, nous serons prêts à prendre les décisions qui s'imposent et qui seront alors comprises par tout le monde.
Une déclaration de guerre au gouvernement de Jean Castex qui, il y a encore quelques semaines, affichait pourtant sa volonté de redonner du pouvoir de décision aux préfets et aux maires pour gérer au mieux la crise sanitaire.
Justement, à Marseille, un rassemblement est prévu demain, vendredi, pour, je cite, « dire non au reconfinement économique ».
De nombreux restaurateurs seront présents. Le président de la région, lui, a indiqué qu'il allait déposer un référé, donc qu'il allait contester devant la justice cette fermeture de restaurants. Et puis toujours concernant la situation du Covid-19 en France, ce chiffre, 16 096, c'est le nombre de nouvelles contaminations ces dernières 24 heures dans le pays. C'est un record depuis le lancement des tests à grande échelle en France, selon les données publiées ce jeudi soir par Santé publique France. Un chiffre qui s'ajoute à celui des patients en réanimation, qui dépasse pour la première fois depuis le printemps dernier le cap du millier. RFI, il est 22h10 ici à Paris. C'est la fin de ce journal en français facile.